C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Certains et certaines d'entre vous l'ont peut-être appris à l'école, Charlemagne ou Charles Ier, dit le grand, roi des Francs de 768 à 814 après J.C., aurait inventé l'école justement. L'histoire, la vraie, l'histoire avec un grand I, renferme peut-être plus de nuances quand on remarque que les écoles, on en trouvait déjà probablement 3500 ans avant J.C. en Mésopotamie, quand l'écriture fut inventée, logique. Alors, pour démêler la vraie histoire de la fausse, la belle équipe de l'histoire avec un grand I, bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Aubelin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors première question pour commencer l'émission, peut-on rappeler qui est Charlemagne ?
Charlemagne, roi des Francs, comme vous l'avez dit Guillaume, de 768 à 814, mais avant d'être roi, car Charlemagne n'a pas toujours été roi, en effet, il n'a pas été roi de naissance, il a eu une jeunesse, il a eu une vie, il a eu quelque chose avant. Et c'est là qu'est toute la nuance de Charlemagne n'a pas inventé l'école, mais Charlemagne serait considéré comme le premier prof.
Le premier prof.
Voilà, oui. Tout à fait. Et avant d'être roi, Charlemagne donc était professeur des... ce qu'on appellerait aujourd'hui une école.
Donc professeur, en quelle spécialité particulièrement ?
Ah mais un peu de tout.
Un peu de tout.
C'est l'équivalent de l'école primaire. Donc vous savez, vous avez des professeurs polyvalents en école primaire qui sont compétents sur plusieurs matières. Et donc Charlemagne, lui, était compétent sur un certain nombre de matières. Il avait une préférence pour la géographie.
Comme préférence pour la géographie, mais c'était le premier. Est-ce que la géographie existait à cette époque ?
Bah, en fait, voilà, c'est ça. C'est que Charlemagne était le premier. C'est-à-dire que c'était le premier à rassembler finalement des enfants pour dire je vais leur apprendre. Finalement, il apportait finalement ce soulagement aux parents qui disaient je vais instruire vos enfants, je vais leur offrir un avenir meilleur, etc. Donc il ouvre sa première école à Chambéry.
La géographie existait déjà avant, mais personne ne la transmettait.
Voilà, c'est ça.
On était expert d'un domaine, mais on ne passait pas la connaissance. Ou en tout cas une seule personne peut-être qui était notre
mentor direct,
disciple, c'était de 1 à 1. Voilà.
Et c'est d'ailleurs étonnant du coup qu'on retrouve les premières écoles en 3500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie et qu'il ait fallu attendre 4000 ans pour qu'il y ait le premier prof. C'était ce concept, c'est que en Mésopotamie en moins 3500 avant Jésus-Christ, c'était différent. C'était les élèves apprenaient par eux-mêmes.
Ils étaient autonomes.
Et ils se transmettaient entre eux, mais toujours dans une relation un à un. Il n'y avait pas un sachant qui était au-dessus d'un groupe d'apprenants.
Voilà. Et ça donnait place à des lieux finalement totalement chaotiques. Enfin, des lieux où on laissait les enfants livrer à eux-mêmes toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 16h30. Finalement, les parents souvent retrouvaient les enfants dans des états déplorables.
Mais d'ailleurs, Jules César s'est inspiré des écoles de Mésopotamie en moins 4000 pour le Colisée et les jeux du Colisée.
Les jeux du cirque.
C'était très similaire.
Très similaire. À partir de quel âge est-ce qu'on mettait les enfants à l'école à ce moment-là ?
Alors, qu'une école. L'école de Chambéry.
Il y avait l'école de Chambéry, mais avant cela, donc ça ne s'appelait pas des écoles, mais il y avait ce qu'on appelait les parcs à gosses. Les parcs à gosses qui étaient finalement des terrains qui étaient mis à disposition par des agriculteurs. Et en fait, on mettait les enfants, donc c'était délimité par des pieux.
Comme des enclos de chevaux, en fait.
Oui, voilà. Et en fait, on mettait les enfants. Donc avant, on avait les parcs à gosses. Et finalement, c'est un jour, Charlemagne, qui justement va passer près d'un parc à gosses, va se dire, bah, y a quelque chose à faire avec ça.
Il y a quelque chose à faire et il... Pour se remettre dans la tête de Charlemagne à cette époque, il était entouré d'incompétents. Tous les gens qui sont censés le conseiller, ses chefs de guerre, ses conseillers même pour gérer le pays en interne, très incompétents.
Charlemagne les appelait d'ailleurs les nounouilles.
Les nounouilles. les nounouilles, il se disait, mais comment faire ? Pourquoi je suis entouré de nounouilles ? C'est là qu'il a l'idée de se dire, mais en fait, il n'y a pas assez de... Ils ne sont pas formés, ces gens-là. Et donc, je vais essayer de créer moi-même ma prochaine cour, qui pourra me conseiller plus tard un jour.
Bah oui, parce qu'il sait que finalement, il est amené à être roi. Le moment où il décide de créer l'école, finalement, il n'est pas encore roi, c'est encore son papa qui est sur le trône, mais il sait que lui, ça va bientôt être son tour. et il ne veut pas des nounouilles. Il ne veut pas s'entourer de nounouilles comme son père, il ne veut pas diriger un pays comme ça. Et donc c'est, l'idée vient de là. L'idée vient justement d'avoir des gens compétents autour de lui qui seraient aussi intelligents, aussi instruits que lui. Car Charlemagne était très intelligent.
Peut-être très intelligent.
Vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, qu'il avait une vision très élitiste de l'école et de fait, hein, de par son idée de départ. Et quand il passe à côté de ce parc à gosses, en fait, il y voit une espèce d'opportunité de faire ressortir les meilleurs du lot. Et donc, il y a une forme de compétition, en fait, très tôt dans l'école. Mmh. Et donc, Charlemagne va apprendre aux meilleurs, à ceux qui ont la capacité de s'élever au-dessus du lot et pour ne pas se retrouver avec les meilleurs des nounouilles.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand il passe devant ce parc à gosses en 1666, hein, Charlemagne va essayer de prendre uniquement les meilleurs gosses en leur posant une devinette et en acceptant dans son école uniquement ceux qui savent y répondre. C'est une devinette qui est assez connue, hein, et qui a permis avec beaucoup de dérivés aujourd'hui.
Monsieur et Madame Condat ont une fille, comment s'appelle-t-elle ?
Bon.
Nous on l'a. Mais imaginez des enfants de l'époque qui ont toujours vécu dans les campagnes françaises, impossible pour eux de répondre.
En 1766, c'est très difficile de répondre la réponse qu'attendait Charlemagne.
Il faut d'abord un peu de culture, connaître l'animal,
ouais.
et en plus avoir le faire le lien, quoi.
Attends, je crois que je l'ai pas.
La réponse est Anaconda.
Ah.
Comme l'animal.
Ah, comme quoi, même aujourd'hui, ça pose des soucis.
Bah non, mais je l'avais pas. Mais vous aviez
quoi, Thierry ?
Non, mais j'aime pas trop les blagues comme ça. C'est pas...
vous aviez une blague, c'est une devinette de Charlemagne.
Non, mais c'est pas.
Vous aviez l'air de c'est l'avoir pourtant.
Vous vexez pas, Thierry.
C'est pas censé être drôle. Les devinettes sont pas.
Si j'avais pris le temps, si je m'étais intéressé, j'aurais pu y répondre. Je l'ai pas fait, voilà, c'est tout.
D'accord. Je suis curieux quand même, vous aviez quoi ? Ou est-ce que vous pensiez que c'était quoi ?
Je ne sais pas, Bernard, je me disais peut-être.
Une fille qui s'appelle Bernard ?
Et puis Bernard Condat, ça ne fait plus de...
Non, mais je sais, je n'aime pas. J'aime pas les blagues, les charades,
écoutez,
tout ça.
Bref. Passons à autre chose.
Oui, passons à autre chose, continuons sur... Charlemagne.
Mais bref, toujours est-il que seulement une poignée des gosses de ce parc à gosses dans ce champ finit par avoir la réponse. Cinq enfants qui seront les cinq premiers enfants de l'école de Charlemagne.
Cinq premiers écoliers.
Le Charlemagne leur paye le voyage tout frais compris jusqu'à Chambéry.
Ah oui, parce que le parc à gosses n'était pas proche de Chambéry.
Non. Il était en région parisienne. Mais par contre, voilà, le voyage va être payé et finalement, ces cinq premiers écoliers vont aller dans un bâtiment qui aurait été construit
spécialement pour l'occasion,
sur ordre de Charlemagne, juste avant son couronnement. Là, on est en 767 et juste avant, justement, il lance cette première école. Du coup, une école dans laquelle il va consacrer une année scolaire, puisqu'après, il sera appelé à des devoirs un peu plus importants.
Alors, la première école des cinq écoliers de Charlemagne, on continue sur cette histoire juste après la pause musicale.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé. 4 et 4 font 8, leçon de français, de mathématiques,
que de
travail,
sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait
sont pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé,
participe passé.
4 et 4 font 8,
4 et 4 font 8.
Leçon de français,
leçon de français.
De mathématiques,
de mathématiques.
Que de,
que de.
Travail,
travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis.
Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh.
Nous revoilà dans l'histoire avec un grand et après France Gall et son bien connu sacré Charlemagne. Alors on vient de dessiner le contour de cette première école, de cette première année des cinq écoliers de Charlemagne. Donc cinq écoliers qui arrivent à Chambéry. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment Charlemagne organise sa classe et son école?
Eh bien déjà, comme dans toute école, il y a eu la première rentrée. La première rentrée des classes où finalement les enfants étaient en internat, voilà, ils étaient logés au sein même du bâtiment qu'on n'appelle pas encore ça l'école, c'est que plus tard que sera venu le nom d'école, mais au final les enfants dorment là, voilà, ils sont à l'internat directement dans le bâtiment. Et ils attendent le premier jour des classes, ils attendent le premier jour de quoi? Parce que Charlemagne, il reste très évasif à ce sujet.
Oui. On pense que même lui ne savait pas exactement ce qu'il allait proposer dans cette classe.
D'ailleurs, cette première journée est très bucolique.
Oui.
Il vient chercher les enfants très tôt le matin, dès 8h, sans la garder. Bon, selon moi, c'est une hérésie, mais tôt le matin, dès 8h, et il les emmène en altitude, vu qu'on est à Chambéry, hein. Car selon lui, l'altitude favorise le manque d'oxygène, favorise la
réflexion,
le développement du cerveau, la réflexion,
voilà. De la pensée.
Voilà, est-ce que c'est bon aujourd'hui? C'était une idée farfelue, je pense.
Mais bon, à l'époque, les croyances, vous savez. Hein.
Et il les emmène donc dans un pré en altitude près de Chambéry. Ils se posent tous sur des gros cailloux. Disposé en arc de cercle autour de Charlemagne qui se pose lui-même sur un gros caillou, et il commence à leur poser d'autres devinettes.
Donc c'est une journée bucolique dans un champ où le sujet principal seront les devinettes.
Oui, c'est beaucoup de devinettes et beaucoup trop de devinettes, c'est-à-dire que rapidement les enfants vont se lasser. Et
puis surtout, ils ne variaient pas beaucoup, c'était que des monsieur et madame ont un fils, ont une fille.
Et la réponse était tout le temps Anna, c'était tout le temps j'ai le mot avec le prénom Anna. Donc franchement, au bout d'un moment, les enfants se sont lassés. Mais Charlemagne va découvrir quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas finalement. Parce qu'il pensait que c'était lui qui allait poser les questions. Mais finalement, les cinq enfants qu'a Charlemagne qui ont entre 6 et 10 ans, ces cinq enfants-là, vont se mettre à un moment, lorsqu'ils vont s'ennuyer, à lui poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette fleur? Quel est cet animal? Combien de temps sa vie? Etc, etc. Et Charlemagne va découvrir finalement le plaisir d'apprendre, le plaisir de transmettre.
Il savait beaucoup de choses, Charlemagne. Il savait énormément de choses. Il a passé du temps à l'extérieur, regarder la nature. Et donc, il savait combien de temps sa vie une chenille. Il sait quel est le cri de la chèvre. Et donc, il transmet tout ça aux enfants. Et en fait... ils ne voient même pas le temps passer, et à 20h, lorsque la nuit tombe, ils se disent « Mais attendez, on a passé tout ce temps assis sur des gros cailloux. » Donc ils descendent et ils vont à la cantine.
À la cantine, oui, parce que qui dit école, internat, dit forcément cantine. Comment ça se passe dans cette première cantine?
Il n'y a personne pour faire la nourriture. Et Charlemagne est totalement oublié finalement de prévoir quelqu'un. Mais le fait est que...
Ils le feront eux-mêmes
et... Par chance, ils ont passé la journée dans les bois, dans les montagnes, et ils ont ramassé de nombreux champignons, de nombreuses herbes. Finalement, ils vont se préparer une bonne poêlée, et ça va constituer le premier repas de cantine. Alors, ça ne paye pas de mine, ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais ça réchauffe le cœur. Et c'est encore aujourd'hui ce qu'on retrouve dans les cantines françaises aujourd'hui. Finalement, des plats qui ne sont pas très ragoûtants, mais qui nous font du bien, parce qu'on en a besoin.
Donc le lendemain, ils repartent dans cette espèce de petit pèlerinage hein, jusqu'au pré, et ils refont ce même schéma qui avec tantôt des devinettes, un petit peu d'études de la nature, on redescend, on se fait à manger. Et Charlemagne, ça devient comme une routine où on se rend compte qu'en fait, on a des créneaux qui se créent et des différentes études à différents moments. C'est ce qui va composer la première base, le premier thésaurus, la première base académique avec un peu de jeu d'esprit. Et ils appelaient ça les jeux d'esprit, les devinettes, matière des jeux d'esprit, un peu de science et vie de la terre et un peu de cours de cuisine. C'était les trois premières matières de...
Les trois piliers de l'école française.
Et voilà, on va vite se heurter à un problème majeur que Charlemagne n'avait pas envisagé. C'est que des enfants, ça court énormément. Et finalement, au bout d'un moment, c'est que les enfants aiment apprendre, certes, mais comme on peut le voir aujourd'hui, les enfants ont également besoin de se défouler. Et en fait, Charlemagne va se mettre à perdre des enfants avec ses sorties bucoliques. Là, au bout de quelques semaines, finalement, les enfants disparaissent dans les montagnes. Il met un temps fou à les retrouver.
Il en perd deux, ouais. Il perd
Benoît et Mireille. Qui étaient, il se retrouve à trois étudiants. Et là, c'est là où le besoin d'une salle de classe.
Oui. Pour vraiment contenir les enfants.
Il retrouve Mireille, mais Benoît se fera manger par un loup.
Oui. Ouais, c'était le grand drame.
Mais donc voilà, c'est un peu la suite logique du parc à gosses, en fait. C'est qu'on va à nouveau parquer les enfants, cette fois dans une salle de classe, et les sorties en montagne se feront plus rares. Et puis l'hiver approchant, ça devenait pertinent aussi de les enfermer dans un lieu clos.
Et finalement, c'est là que nous vient tout le nom, c'est que finalement, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que les enfants, s'ils sont dans une salle de classe, ils retrouvent les mêmes travers des parcs à gosses, finalement. Ils se mettent à courir dans tous les sens, ils se mettent à tout déchirer, ce qu'ils peuvent déchirer. Enfin voilà, ils ont besoin de se défouler. Ils ont besoin de faire des choses. Et la première réaction va faire Charlemagne, qui est la mauvaise. Il va tout simplement coller les enfants à leur chaise.
Et là viendra le nom, école.
Voilà. Il les colle.
Je les colle, et ce qui donnera école, oui, effectivement.
Et d'ailleurs, les heures de colle, ça vient de là. C'est qu'on était collé à sa chaise.
Par littéralement.
Littéralement.
Ah oui, littéralement.
Pendant combien de temps?
Le temps que duraient les leçons, oui, finalement. Oui. Alors, des leçons, si on peut appeler ça des leçons, dans les écrits que nous a laissés Charlemagne, il nous rapporte des hurlements sans fin, des pleurs à briser les cœurs. Vraiment, ce n'était plus des leçons, et à ce moment-là, Charlemagne, au fur et à mesure, va comprendre que finalement, non, coller les enfants, ce n'était pas la bonne solution.
Donc il les décolle.
Il les décollera par la suite. Et se passe toute une année, et là, le père de Charlemagne décède. Il décède en juillet de 768. Et donc Charlemagne est appelé à diriger le pays, à diriger la France. Et donc, ça marquera la fin de l'année scolaire, qui avait commencé en septembre. Charlemagne.
C'est resté ça aujourd'hui. Ah bah oui, de septembre à juillet.
Ça vient de la mort de la première année scolaire.
Complet. Si le père de Charlemagne était mort en
mars.
En mars, l'école durerait peut-être de septembre à mars.
Et ouais.
C'est bête.
Mais s'il était mort un an après, peut-être que les années scolaires dureraient deux ans.
Ce serait terrible.
Ça serait terrible.
Enfin, moi, j'aime pas trop aimer l'école, mais c'est. Non, ça dépend des gens. Hein.
Non,
peut-être
non. Que... Bah, moi, à part les cours d'histoire, je vous avoue que je n'étais pas assidu.
Et donc il est appelé à régner, mais c'est le moment où finalement il aimerait mettre son plan à exécution et qui arrive un peu trop tôt selon lui, parce que souvenez-vous, il voulait se constituer justement des gens qui ne seraient pas des nounouilles pour l'aider à régner sur le royaume de France.
Oui, parce que là, si je suis bien, on a quatre enfants qui ont entre 6 et 10 ans à ce moment-là.
7 du coup, parce que 6 c'est Benoît qui s'est fait manger.
Ah oui, pardon.
Entre 7 et 11 ans, et finalement ça... Sa cour d'école n'est pas assez âgée pour l'aider. Il a encore beaucoup de choses à apprendre à ses enfants.
C'est intéressant parce qu'il faut peut-être faire le... Effectivement, je pense que beaucoup d'auditeurs viennent de le comprendre, mais cour d'école, effectivement, ça vient aussi de là.
Oui, une fois qu'il a décollé les enfants, il a compris qu'il fallait les laisser, il a compris que ça allait être sa cour, et du coup, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la cour d'école.
Et oui, voilà, et ce qui donne aussi l'endroit où on redonne la liberté aux enfants.
Exactement.
Un petit peu dans la cour d'école.
On les laisse courir aussi.
Aussi.
Et Et ça marquera un peu le moment où il faut faire une espèce de bilan des acquis, et c'est là qu'il apprendra les examens, en fait.
Et l'examen servait à, pour créer sa, justement pour sélectionner encore parmi ses quatre premiers élèves sélectionnés. Il avait besoin de, il y avait deux places vacantes parce que deux nounouilles partaient avec le roi et il fallait sélectionner deux de ses enfants. Il comptait vraiment sur ses enfants pour constituer sa cour. Sélectionner deux de ses enfants parmi les quatre pour venir à sa cour et le conseiller.
Toujours sur sa vision très élitiste, en fait, toujours pour continuer de les challenger, comme on dirait aujourd'hui, pour essayer d'avoir les meilleurs des meilleurs. Parce que finalement, on dit 11 ans, c'est un peu jeune. Pour l'époque, 11 ans, on commence normalement à travailler.
11 ans, on commence à travailler et du coup, il faut sélectionner les deux qui partiront travailler avec le roi à Paris. Comment ça se passe, cette sélection?
Ça va être des examens. Donc, Charlemagne a pris des notes pendant tous les cours et il leur fera réciter tout ce que Charlemagne leur a transmis. Donc, il avait une liste exhaustive de tout ce qu'il avait transmis. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la transmission de Charlemagne. C'est un livre qui est aux éditions Gallimard, qui a été réédité récemment, si vous voulez les lire. C'est un énorme livre. Ça fait 800 pages. Les premiers examens dureront en réalité 2 mois. Deux mois pendant lesquels les enfants seront appelés tous les jours à venir continuer l'examen et à répondre à des questions sur ce que leur a transmis Charlemagne. Et ceux qui avaient le mieux retenu tout ce que Charlemagne avait transmis, ce sont eux qui ensuite partiront à la cour du roi avec le nouveau roi.
Et d'ailleurs, vient avec ses premiers examens un premier drame, un premier micro-drama, avec le premier cas de triche.
Tout premier.
Justement,
Mireille.
Mireille. Mireille qui était obligée parce qu'elle avait loupé une petite partie des cours avec ce problème d'excursion.
Quand elle s'était perdue.
En plus, ça a été un peu traumatisant avec cette histoire de
Janvier à décembre.
Oui, voilà, de janvier à décembre. On avait perdu de janvier. Attendez.
Non. De décembre à janvier.
De décembre à janvier. Je confonds les mois, c'est terrible.
Oui. On l'avait perdu de décembre à janvier, et puis il fallait se remettre. Elle l'a vu Benoît se faire manger par un loup, donc pareil, il y a eu une petite phase de janvier à février, on lui a laissé un temps. Presque 2 mois de cours qu'elle a loupé, et donc elle a été obligée de recourir à la triche pour pouvoir avoir une chance. Une triche toute simple, hein, la triche la plus élémentaire.
L'antisèche.
Voilà. Et malheureusement, malheureusement, pour elle en tout cas, Charlemagne la verra tricher.
Elle fera 2 mois de prison.
À la Bastille.
À la Bastille. Et Charlemagne leur a laissé une petite facétie, puisqu'en fait, un bon quart de la note finale sera sur une devinette. Et c'est là où Charlemagne fait la boucle avec la devinette initiale qu'il leur a donnée dans le parc à gosses. Monsieur et Madame Hervite mon slip ont un fils, comment s'appelle-t-il? Et là, seulement une personne l'aura. Est-ce que vous l'avez peut-être
Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous.
Monsieur et Madame Hervite mon slip.
C'est pas ça qui est important dans l'histoire.
Monsieur et Madame
Hervite mon slip.
C'est pas important dans l'histoire.
Attendez, je le savais en plus. Ah, je l'ai sur le bout de la langue.
Est-ce qu'on peut avancer dans l'émission, s'il vous plaît? Parce que c'est pas important dans l'histoire.
Hervite mon slip.
C'était une devinette, voilà, c'est rigolo.
Un fils.
Je vois où ça va, hein. Mais fils, alors là, lequel?
Peut-être Bernard.
Non, c'est pas Bernard.
C'est pas Bernard, je pense.
Je sais pas.
C'est jamais Bernard.
Non, mais Thierry, il faut que le prénom avec le nom de famille fasse une phrase. C'est pour ça, Bernard, ça marche.
C'est pas rigolo.
Mais fait, Thierry, c'est très simple.
Est-ce qu'on peut avancer dans l'émission?
Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut avoir la réponse?
C'était Jean-Philippe.
Jean-Philippe,
Hervite mon slip. Et donc Charlemagne sélectionnera.
Je vous vois sourire, Thierry. Ça vous fait un peu. Ça vous,
si, ça vous amuse,
non,
arrêtez.
Non. Si, un peu.
C'est Thierry sourit. C'est un peu rigolo.
On
le voit. Bon, très bien. Alors.
Et voilà, donc une seule personne l'aura. C'était Sandra. Elle rejoindra tout de suite la cour du roi, la petite Sandra, 8 ans et demi. Et elle deviendra la première conseillère de Charlemagne.
Voilà. Mais on a quand même ce moment émouvant, finalement, après les 2 mois d'examen, où Charlemagne, du coup, siffle la fin des examens finaux, pose la devinette, Sandra répond, il la nomme officiellement, voilà, à sa cour. Mais on a ce moment où, finalement, il reste dans la classe, et il se demande, mais, Mais que se passe-t-il ensuite?
Oui, que se passe-t-il pour les... Attendez, j'ai perdu le nombre. Les trois
autres. Ils sont plus que trois.
Ils sont plus que trois. Trois enfants qui restent du coup à l'internat.
Bah, donc deux vont rester. Enfin, surtout, qu'est-ce qui se passe pour Timothée
et... Mireille et Léopard. Hein.
Léopard. Oui. Bah, Mireille est en prison.
Mireille est en prison.
Mireille est en prison, mais elle va le faire que deux mois. Et elle sera réhabilitée pour l'année d'après. Mais parce qu'elle est prometteuse. Elle
et
est douée.
Puis vous allez vite en besogne, mais il y a une année d'après.
Il y a une année d'après. Et donc oui, effectivement, il y a une année d'après. Et Charlemagne se dit, mais qu'est-ce que je fais de Timothée et
Léopard.
Léopard. Et Mireille, parce que c'est original comme nom, mais c'est pour
c'est ça là que qu'est c'est là qu'est tout justement le la raison de pourquoi c'est que Charlemagne s'est attaché à ses enfants. Mm-hmm. Il leur voit un potentiel. Ok, ils ne sont pas prêts pour la cour du roi tout de suite.
Non.
Mais pourquoi pas dans quelques années et pourquoi pas pour d'autres métiers. Et en fait, ils commencent justement à voir le potentiel. Et finalement, la possibilité de faire de ses enfants et peut-être d'autres enfants, des enfants instruits. Et donc la pause réglementaire de deux mois, justement, pour permettre à Mireille de venir, ça va devenir aujourd'hui ce que sont les grandes vacances. On appelait ça les grandes vacances de Mireille à l'époque, mais maintenant c'est juste les grandes vacances.
Coup de bol, c'est fou, parce que si la peine avait été plus longue pour Mireille, si elle avait été coupée de 5 mois de prison... On aurait des vacances de 5 mois.
Et d'ailleurs, ouais. ça a bien aidé les droits de l'enfant plus tard, puisque si vous avez commis un crime pendant votre année scolaire, eh bien, vous pouviez attendre la fin de l'année scolaire pour purger votre peine, qui sera forcément de 2 mois de prison. Tant que vous étiez à l'école, vous n'auriez eu que 2 mois de prison, et ça aurait été forcément de juillet à septembre.
Oui, parce que Julien a raison de le mentionner. En fait, vous disiez que c'était un hasard, que la peine aurait pu durer plus longtemps, mais de ce qu'on dit, justement, Charlemagne a fait en sorte que la peine se termine au 1er septembre pour qu'elle puisse être là le jour de la rentrée.
Oui, c'est vrai.
Enfin, après, ça, il n'y a rien de prouvé, mais en effet, ça aurait été fait exprès pour ça.
Donc là, vous parlez d'une rentrée et d'une deuxième année. Qui s'occupe de cette année si Charlemagne est roi? Et pourquoi est-ce qu'on repart sur une nouvelle année? Quel est le contenu?
C'est là qu'il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Finalement, Charlemagne ne pouvait plus être professeur et il fallait trouver quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui soit à la hauteur. Comme je vous l'ai dit, Charlemagne s'était attaché à ses enfants et il ne fallait pas n'importe qui pour s'en occuper.
Et qui de mieux pour s'en occuper que quelqu'un qui a de l'expérience et donc finalement, les premiers nommés en tant que professeur après Charlemagne de l'histoire seront Léopard et Timothée. Léopard qui deviendra professeur de l'école de Charlemagne de Chambéry, et Timothée qui ira prendre l'école de Mulhouse, fonder une école à Mulhouse, du haut de leurs 11 ans, alors que Mireille sera la première élève à redoubler. Elle restera, son professeur sera donc Léopard pendant une année de plus, l'année où elle pourra rattraper du coup les 2 mois qu'elle a perdu. Fait intéressant, elle se repère en forêt d'ailleurs cette deuxième année.
Oui.
Mais elle arrive à rentrer par ses propres moyens et c'est pas voilà. C'est
peut-être
juste
du tout. Je suppose qu'elle s'est pas perdue les mêmes mois qu'elle a loupé la première année.
Et puis c'est une petite balade. Elle est revenue assez vite. Voilà, il y a pas de, c'est intéressant de le mentionner.
Bon, et puis il faut imaginer des écoles gérées par des enfants aussi à cette époque-là. Hein.
Mais est-ce qu'on repart pas un peu sur les travers du parc à gosses, finalement, en nommant les élèves eux-mêmes professeurs?
Non, parce qu'ils sont, ils sont assez matures. Déjà, ils ont subi justement une discipline assez stricte pendant un an à l'école de Charlemagne. Ils étaient collés à leur chaise. Enfin, ils en ont vu, ils en ont vécu des choses tout de même. Et donc non, ils sont à même de tenir ça et on ne retombe pas dans des parcs à gosses comme on a pu en voir avant.
Non, et puis je pense qu'il y a aussi un très grand truc. Moi, j'ai lu un très intéressant papier de recherche là-dessus sur le fait que Charlemagne a une idée une des problématiques qu'il a anticipé était le fait qu'un enfant donne cours à un autre enfant. Et donc pour bien faire une distinction entre les deux, il crée le vouvoiement. Qui date de cette époque. Hein. Les enfants ont été obligés de vouvoyer leurs professeurs qui avaient leur âge, créant une distance pour le respect. Hein. Voilà, c'est ce qu'on met derrière ce vouvoiement pour donner du pouvoir en fait. Voilà, c'est Léopard et Timothée en fait se sentent pris de pouvoir et en fait vont assumer leur rôle. De manière très adulte, en
comme
fait.
S'ils étaient plusieurs personnes, en fait, parce qu'on s'adressait à vous en s'adressant à plusieurs personnes, en fait, à l'époque. Et, Et donc ça leur donne l'importance de plusieurs personnes. Et en plus de ça, Charlemagne leur a fourni des fausses moustaches pour leur donner un côté plus adulte. Et c'est pour ça qu'on...
Et il a interdit à Mireille de dire le vrai âge de...
Oui, voilà.
Voilà.
Et donc avec des fausses moustaches, c'est pour ça que les enfants ont ensuite pris le réflexe de vous voyez des personnes plus âgées qui avaient des moustaches. C'était un signe de sagesse, en fait, à l'époque.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités. Merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Charlemagne, l'invention de l'école, du vouvoiement et des premiers professeurs. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.